initiatives ou vos questions
ne pourront que nous enrichir mutuellement. Je jargonne très bien. Et d'ailleurs, si vous voulez après avoir la présentation,
un PowerPoint,
ouais.
Volontiers.
D'ailleurs, c'est prévu qu'on ait accès un peu aux présentations par la suite sur le
site. Ah d'accord, bah super. Ouais, j'en sais rien. Moi, je pense que ce serait une bonne idée, ouais.
Ouais.
On les donnera à Hubert.
On les mettra au format XML et puis après, vous débrouillerez.
Si vous arrivez à les convertir dans le bon format, c'est bon. Vous n'aurez pas perdu.
Direct dans le vif du sujet. Là.
Allez, hop.
Ok, ben, on va commencer. Si vous voulez, c'est pas mal qu'on fasse un peu le tour. Vous me disiez ce que vous faites et qu'est-ce que vous savez de XML et qu'est-ce que vous attendez d'aujourd'hui. Parce que bon, j'ai préparé quelque chose, mais c'est censé être très dynamique, donc on y va. Allez.
Ouais. Donc là, on s'est là, on représente l'édition de la journée. Moi, en fait, j'utilise la tech pour la production des livres. Il y a un autre système de balisage et de mise en forme du contenu. Donc je voulais un peu voir ce que pouvait... le XML, bon, je le connais de nom, mais concrètement, je n'ai jamais touché. Donc j'aimerais voir un peu s'il y a des avantages précis par rapport à ce que j'utilise moi en termes de rendu ou en termes de facilité d'utilisation. Et voilà, c'est surtout de la curiosité et de l'information à l'heure actuelle.
Et je n'ai pas compris, c'est quoi que tu édites ?
Moi, je suis éditeur en histoire et archéologie.
Ah oui.
Voilà. Donc un peu, voilà.
Dominique Garrigue, donc j'ai un projet de site de livres électroniques. Et je suis. Le XML m'intéresse pour comprendre un peu la chaîne éditoriale. Je n'ai pas une spécialité particulière sur le thème. Donc, pour en savoir un peu plus.
Bon, moi, Hélène Clément, je travaille au syndicat de la librairie française. On édite maintenant une publication depuis un moment qui s'appelle Les Cahiers de la librairie, une publication papier. On va sortir notre prochain numéro en trois formats. Format traditionnel, un format en ligne avec l'aide d'Editis et puis un format numérique. Donc je m'intéresse à XML pour l'avenir de la publication en format électronique.
C'est vrai que pour info, l'Asfored édite son catalogue de formation comme ça maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont une édition web, une édition papier, mais tout est géré à partir d'un outil XML.
Exactement.
Ils font ça depuis, je crois, 2 ans.
Alors, je m'appelle Alexis Nikishin. Et j'ai travaillé pendant 3 ans dans une société qui faisait du documentaire, hein, enfin, qui est des catalogues, des magazines, tout ça. Et moi j'ai spécialisé dans ce qui est les dictionnaires et les encyclopédies. Hein. Donc on a fait il y a assez longtemps, j'ai fait un truc qui était en XML, qui s'appelait l'encyclopédie Hachette Multimédia, donc qui était un site web et un CD-ROM, qui est Mac, Linux, Windows, tout va bien. Et depuis, j'ai fait du XML pour des éditeurs de dictionnaires. Donc, j'étais dans le côté technique, derrière des gens qui vendaient des solutions XML à d'autres gens qui voulaient du XML. Donc, les gens, c'était des lexicographes. Hein, et on leur a vendu plein d'avantages en matière de rigueur, structure, réutilisation des données. Voilà, il y a des gens qui font du web et du papier avec, déjà. Donc, voilà. Je pense que j'ai sûrement des trucs à dire.
Alors, je suis Yvan Jaffrin, je viens de commencer à travailler pour la PUF. J'ai une formation de sciences humaines à la base et un master d'édition là. Et j'avais travaillé auparavant un peu pour Cairn. Donc les PUF travaillent avec les revues hein, à Cairn, mais ils ont évidemment un certain nombre de projets numériques avec les fonds des dictionnaires, des que sais-je, des revues, mais aussi donc des manuscrits, des ouvrages. Donc il faudra à terme repenser la chaîne hein, à partir de sur différents types de contenus. Donc ça suppose différents types de chaînes aussi. Ils ont un site maintenant qui est un peu Web 2, c'est Wikipédia en fait le modèle. Hein, donc ça permet d'avoir accès au catalogue intégral sur leur site, mais il faudra penser des moyens de récupérer des données, etc.
Je suis David Douillère, je suis enseignant et chercheur à l'Université Paris 13, je travaille sur l'édition électronique. J'ai travaillé longtemps dans le domaine de l'encyclopédie, sur des bases ou des outils XML. On avait organisé il y a quelques années une journée d'études sur l'impact du XML sur l'édition dans le cadre de l'édition multi-support il y a 5-6 ans, donc ça m'intéressait de voir.
Bonjour, Xavier Gallo, donc moi je suis bibliothécaire et donc bah, ça m'intéresse en tant que chaîne éditoriale XML, je suis bibliothécaire. Voilà.
Marie-France Clarboute, moi j'ai travaillé pendant quelques années en bibliothèque où j'ai conçu des bibliothèques numériques. Maintenant je travaille en indépendante avec des éditeurs, avec des petits éditeurs. J'aimerais me spécialiser en édition électronique et je suis très intriguée, enfin je travaille déjà sur la TEI, je m'intéresse à ePub et je voudrais partir des formats internes vers un format externe, un format de diffusion qui me fait un peu rêver. Enfin je suis en train d'imaginer plein de choses.
La TEI, c'est un format pour les bibliothèques, pour intégrer...
Non. Pas uniquement, il se trouve qu'il avait été choisi par les bibliothèques pour les thèses et pour d'autres documents de littérature grise.
C'est une
DTD parmi d'autres, hein, mais qu'importe, bon, c'est celle que je connais.
Mais utilisé en littérature, par rapport à un groupe, par exemple, il est utilisé en documentation quelconque.
D'accord. Oui. Au départ, pour la littérature, maintenant, pour de plus en plus de choses. Enfin, bref.
C'est du contenu.
Des
documents.
Texte encodé, initiative.
Laure de Riclès, moi j'ai travaillé d'abord comme éditrice puis comme chef de projet dans des encyclopédies, en particulier en Carta d'ailleurs avec David. J'ai travaillé ensuite comme directrice de production chez un éditeur scolaire innovant qui s'appelait Eletronix Education, qui faisait des manuels numériques et il s'agissait d'une production multi-support. Ensuite, plus dans la diffusion des contenus pédagogiques vers les écoles, les collèges et les lycées. Et la première fois que j'ai vraiment entendu parler du XML, c'était à l'atelier à Paris 13 en 2001, je crois. Et donc je m'intéresse beaucoup à tous les aspects de numérisation des processus, d'amélioration de la productivité de l'éditeur et aussi de conquête de nouveaux marchés via la publication multi-support. Voilà, j'ai récemment réalisé avec David une étude sur les processus de production éditoriaux chez les éditeurs scientifiques et techniques et les éditeurs de presse professionnelle.
D'accord. Ben, les conclusions pourraient nous intéresser, hein, peut-être à l'issue de la présentation. Ça ne vous embête pas de nous faire un petit compte rendu?
Avec plaisir.
Ah, super. Bonjour.
Passage.
Tant pis pour vous.
Un café, s'il vous plaît.
Oui, non, je ne peux pas vous faire un café en plus. Bon, ah oui, ben moi j'ai oublié de me présenter. Je suis Nathalie Quin et j'ai un projet donc, de création d'une société spécialisée dans l'édition de City Guide pour la famille et les enfants, multi-support, papier, web, mobile, e-book, à la carte, on choisit ses contenus et personnalisation avec des aspects de web sémantique et collaboratif. Et j'arrête là, ça fait beaucoup. À la recherche de la solution technique, après avoir un petit peu tourné, j'ai opté pour la chaîne éditoriale
XML et avec Camille découvert que je pouvais faire encore plus de choses que ce que j'avais pu imaginer. Alors peut-être que je pourrais, puisqu'on est dans une phase de prototype, et donc dans le cadre de mon projet de création, on est exsoit tous les deux, c'est un peu le hasard, et donc mon projet est soutenu par un dispositif d'avortage de Provence, et je suis en train d'essayer d'intégrer l'incubateur des contenus spécialisés dans les contenus multimédia de la Belle de Mai à Marseille. Voilà, donc voilà, et à l'origine, enfin mon métier, je suis journaliste, donc je ne suis pas du tout techno, journaliste, passionnée de littérature depuis toujours et grande voyageuse en famille. Voilà, enfin peut-être mariée à un ingénieur depuis très longtemps, donc peut-être que par imprégnation. Voilà, mais bon, je vais peut-être laisser Camille maintenant vous présenter. Il va peut-être vous dire des choses que vous savez déjà d'ailleurs sur le XML, parce que vous avez l'air d'être tous...
Il y a un peu de tout, ouais. Donc il va falloir composer. Donc moi, rapidement, j'ai créé la société Neodoc il y a 4 ans avec des anciens collègues de chez Mandriva Linux. Je ne sais pas si vous connaissez le système d'exploitation Linux. Il y a une distribution à Paris qui s'appelle Mandriva. Et donc on était l'équipe de documentation en interne. On générait toute la documentation du produit, d'accord ? Donc les guides d'utilisation, les notices d'installation, etc. C'était assez technique. Et c'était un peu compliqué à gérer parce que on s'est rendu compte qu'il y avait des mises à jour tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il fallait réactualiser tout le contenu. Il y avait à peu près 1000 pages de contenu distribuées dans 3 ou 4 manuels, du plus technique au plus néophyte. Et le tout, on le traduisait dans 5 ou 6 langues. Sachant que le produit sortait le lendemain du jour où les développeurs avaient fini les développements. Et nous, il fallait qu'en même temps, on ait fini la documentation. D'accord ? Bon, c'est un problème classique. En fait, on se rend compte chez les éditeurs de logiciels. Sauf qu'en général, la documentation, ils la fournissent 6 mois après. Mais bon, là, en l'occurrence, c'était distribué au niveau mondial. Il fallait qu'on sorte la documentation dans toutes les langues. Et on utilisait la tech, d'ailleurs, à l'origine. Et c'était pas assez structuré pour nous. C'est pour ça qu'on a migré à XML et on s'est rendu compte qu'on pouvait gérer tout ça. Ça nous permettait de faire du travail collaboratif parce qu'on avait plusieurs personnes qui travaillaient en même temps sur un même document qu'on découpait en petits modules, en petits chapitres. Donc ça permettait d'aller beaucoup plus vite. Et pareil pour les traducteurs, dès qu'il y avait un module qui était rédigé ou mis à jour dans une langue, en anglais en l'occurrence, ils pouvaient commencer à le faire dans notre langue. Voilà. C'est comme ça qu'on a développé depuis 8 ans maintenant des compétences sur ces chaînes XML et tout ce qui l'entoure pour pouvoir produire du contenu et le publier sous différents formats. Voilà. Donc, on va faire une présentation que je vais essayer de faire le plus rapide possible pour que vous ayez le temps de m'interrompre pour qu'on puisse approfondir des sujets. Ensuite, je ferai une démonstration sur les outils qu'on utilise de manière générale. Vous voyez un petit peu en pratique comment ça se passe. Voilà. Vous voyez tous l'écran à peu près, ça va ? Donc, très rapidement, historiquement, SGML, ça a été conçu pour stocker de l'information. C'était déjà des manuels techniques pour la SNECMA, pour les manuels de vol, notamment des aéronefs. Le HTML, tel qu'on connaît, c'est un sous-ensemble de SGML, d'accord ? C'est un langage SGML qui permet de coder des informations spécifiquement pour le web. Le SGML avait été conçu pour stocker n'importe quel type d'information dans n'importe quel sens. C'était très complexe à gérer. Donc le W3C, pour simplifier le traitement des informations sur le web, parce qu'il faut que ça aille très vite, on a dérivé un sous-ensemble qui s'appelle le XML, donc Extensible Markup Language, langage à balise, extensible, personnalisable, puisqu'on peut dériver toutes sortes de langages pour coder toutes sortes d'informations dans ce format de stockage. D'accord ? Et donc à l'heure actuelle, il est utilisé de plus en plus en dehors du web, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un très bon format pour structurer l'information et la retraiter indépendamment du support sur lequel on allait la servir à l'utilisateur final.
Peut-être peut-être juste un petit mot, quand on n'est pas de ce monde, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire, à savoir qu'avec le XML, vous avez d'une part le contenu, le texte, les images, d'autre part, vous avez la structure de votre contenu qui est à part, et ensuite, vous avez sa mise en forme, les trois éléments étant indépendants. Et donc, ça permet plein de choses, en particulier de structurer avec des éléments sémantiques éventuellement, mais aussi pour le multi-support, vous avez rentré un contenu, vous l'actualisez comme vous voulez, et après, vous avez votre chaîne de mise en page, vous n'avez rien à toucher, quoi. Je ne sais pas si je suis bien claire. Non, j'ai voulu être claire, je vous ai encore plus compliqué. Mais le fait que ces trois éléments soient distincts, c'est ce qui
permet justement
d'automatiser.
Voilà, d'automatiser le processus. Et de rendre pérenne, puisqu'Avi va vous dire après, que le XML, aujourd'hui, c'est le langage de stockage des données. Puisqu'elles sont... c'est du texte.
Voilà, c'est du texte pur. On vous donne un fichier XML,
ouais.
Vous l'ouvrez dans un éditeur de texte n'importe quel, dans Notepad par exemple,
ouais.
Vous comprenez tout de suite de quoi il s'agit. D'accord ? On vous donne un document .doc, si vous n'avez pas Word,
ça marche pas.
C'est même pas la peine. D'accord ?
C'est vraiment un langage universel.
C'est le langage,
voilà.
universel. Et c'est pas c'est le fait que ce soit le 3WC qui soit... Le W3C, pardon. c'est pas... voilà, c'est pas anodin, quoi.
Bizarre dans la présentation. Bon, enfin, bref. Ça on l'a déjà dit. Et donc, à l'heure actuelle, on se rend compte que XML est utilisé partout, d'ailleurs, un peu à tort et à travers. On se rend compte que c'est devenu un peu le mot magique. Il faut que tout le monde mette un peu du XML partout. Même si, au final, ça ne correspond à rien. Par exemple, vous avez peut-être suivi la guerre des formats sur les traitements de texte entre Microsoft Office et OpenOffice. Microsoft a fait du XML depuis très longtemps pour dire qu'il faisait du XML. Le problème, c'est que il a voulu réutiliser tout ce qu'il avait gardé depuis des années et des années, et il est complètement inutilisable, le XML de Microsoft. C'est pas pour rien qu'ils essaient de le faire normaliser depuis des années avec les mémoires qu'on connaît jusqu'à présent. Voilà. Bref, j'en dirai pas plus. C'est qu'un exemple. Alors là, je parle d'un autre aspect que permet le XML grâce à toutes les avantages de la structuration du contenu, tout ce que ça permet au niveau de l'utilisation. Donc, comme je l'ai dit, nous, dans notre contexte de création de documentation technique, on avait des contributeurs dans le monde entier, d'accord ? Et donc, il fallait qu'on parle tous le même langage, qu'on utilise des outils faciles, et qu'on centralise toute l'information, et toute cette information puisse être automatiquement agrégée et transformée. D'accord ? Donc voilà, des contributeurs répartis géographiquement, des modules de contenu qu'on pouvait attribuer à différentes personnes, avec des outils d'édition qui étaient quand même sur le poste de l'ordinateur de chacun des intervenants, des contributeurs, et des outils de communication et de partage, voilà, parce que à partir du moment où on travaille dans un contexte collaboratif comme ça, il faut mettre en place toute une infrastructure technique quand même, parce qu'on n'est pas tous dans le même bureau, on peut faire des réunions tous les jours, donc il faut des outils de communication adaptés à tous les modes, du plus temps réel au plus pérenne, comme les web, les sites web. Alors, on a déjà beaucoup insisté sur la structuration du contenu.
Juste un petit mot, on me demande parfois quelle est la différence entre stocker de l'information dans une base de données et stocker de l'information dans un document XML. Alors, justement, une des clés réside dans ce mot document XML. D'accord ? Une base de données, ce sont des informations élémentaires qui sont stockées en gros dans un tableau, d'accord, avec des lignes et des colonnes. Il n'y a pas vraiment de notion de document, de chronologie de l'information, d'accord, de structuration autre que tabulaire, d'accord. Alors qu'en XML, on a vraiment une arborescence, d'accord. Et un document, il est organisé de forme, sous forme arborescence quand on y réfléchit, d'accord. On a un document, un élément maître qui s'appelle le document, le livre, d'accord. On a un titre, d'accord. Ensuite, à l'intérieur, pour schématiser, on a des chapitres, lesquels vont contenir un titre, puis des sections, lesquelles sections vont contenir éventuellement des sous-sections, lesquelles pourront avoir des titres. À l'intérieur, on va trouver des paragraphes, etc. D'accord. Donc c'est vraiment une structure arborescente. Est-ce que vous visualisez ça tous à peu près? Parce que c'est vraiment essentiel pour le XML. On n'a pas le paperboard. J'aurais pu vous faire un peu ça. Mais enfin, vous saisissez. Ouais.
Vous allez nous montrer un exemple?
Oui, tout à fait.
Sur l'interface d'éditeur,
voilà.
Enfin, qui permettra à nos auteurs de rentrer leurs données, parce que nous, on a cette problématique aussi dans le projet, c'est que on veut couvrir des villes dans le monde, donc nos auteurs, ils habiteront dans la ville, et donc sinon, ça n'a pas d'intérêt si l'info n'est pas validée et sourcée. L'auteur pourra rentrer directement son contenu dans l'arborescence, mais vous verrez. Voilà.
Ouais. J'ai des questions là sur la différence du XML et de la base de données.
Oui.
Parce que j'entends bien la structuration arborescente du document, mais ça, on pourrait aussi le gérer en base de données, le fait de différencier ce qu'est le titre de la section 1 du document entier. Et d'ailleurs, cette structuration en base de données, elle sert par exemple pour la publication sur Internet avec les sites dynamiques. Donc, j'arrive pas bien à comprendre la spécificité du XML et sa valeur ajoutée pour structurer la donnée et la rendre publiable dans sa forme.
Alors, déjà, la base de données, effectivement, il y a les données, d'accord ? Mais c'est difficile de les séparer du programme qui va exploiter ces données, d'accord ? Si on vous donne uniquement les données de la base de données, ça va être difficile pour vous d'en extraire le sens, la relation entre toutes ces données, d'accord ? Tandis qu'avec le document XML, on a déjà toute la structure qui fait partie des données, en fait. Hein, elles sont intimement liées, d'accord ? D'autre part, dans cet arbre XML, on a tous ces éléments qui sont imbriqués les uns dans les autres. Ça, c'est tout ce qui est la structure de l'information. Et il y a une deuxième dimension, en quelque sorte, de l'information, qui sont toutes les métadonnées, d'accord ? Ça va être des données qui vont qualifier l'information, d'accord ? Et ça, c'est très adapté pour ce qu'on veut faire ici, en fait. À la limite, la base de données est un peu trop généraliste pour ça. Et il va falloir rajouter beaucoup de programmation derrière pour pouvoir faire ce que là on fait en XML naturellement, d'accord ? Structurer l'information et la qualifier avec des métadonnées. D'accord ?
Peut-être la différence par rapport à la base de données, ça va être justement par rapport au multi support. C'est peut-être plus compliqué à partir de données issues d'une base de données de faire du groupe PDF bien maquetté, par exemple. Je ne sais pas, il paraît qu'on peut aujourd'hui. Enfin, qu'il y a des gens qui savent faire du bon PDF. Mais voilà, c'est une autre.
Voilà, mais c'est-à-dire que tout l'environnement de publication, c'est structuré autour de ce format XML. À l'heure actuelle, on a des outils très performants qui permettent de gérer le XML directement et de le transformer dans tous les formats qu'on veut. Et en général, lorsqu'on veut mettre en page des données issues d'une base de données, on commence par les transformer en XML pour ensuite les transformer en autre chose. D'accord ? Donc si on part du XML, on a déjà gagné une étape.
Mais je ne sais pas, dans l'activité de fabrication de
fabrication des dictionnaires dans lesquels vous avez travaillé, c'était quoi les schémas de transformation ?
Par rapport au XML, ce que, enfin, d'après ce que j'ai commencé à en comprendre, je ne sais pas si la base de données arrive à faire ça, mais ce qui est intéressant dans le XML, c'est qu'on peut aller toucher une information parce qu'on sait où la retrouver dans la structure du, je veux le titre, l'auteur et le résumé. Et on sait, on va chercher avec les balises XML. Et je ne sais pas si une base de données peut répondre à ces... Si aussi, d'accord. C'était une semi-connaissance.
Ouais. C'est juste qu'à gérer, c'est quand même... Une base de données, c'est quand même beaucoup plus lourd à gérer qu'un fichier texte, qu'un simple fichier texte. Faire une recherche dans un fichier texte, ça ne demande rien. Enfin, même Notepad, qui, bon, comme éditeur de texte, c'est loin d'être un... Voilà, c'est pas une référence, mais voilà, Notepad, on cherche une info, il y a un champ de recherche, voilà, ça va très vite. Une base de données, il faut effectivement avoir un programme qui gère la base de données, enfin, il faut l'avoir installé dessus. C'est pas portable, c'est pas pérenne en termes d'information. Après, ça peut être... Hein ?
La complexité de votre recherche à faire dans Notepad aussi.
Oui, non, c'est sûr.
Et de la taille de votre fichier de texte.
Oui.
4 mégas, il y avait 4000 lignes, c'est sûr que ça va prendre un certain temps. Mais c'est quand même plus portable, tu vois.
Pour échanger l'information, je pense que c'est beaucoup plus pertinent d'utiliser du XML qu'une base de données.
Les bases de données peuvent générer du XML. Ce sont des cases. En fait, les balises sont cachées, mais c'est le même langage. C'est beaucoup plus simple pour des termes d'enrichissement. Hein, si on rentre dans une case, un contenu actualisé, il va être généré à nouveau directement sous une forme déjà stylisée. Donc, c'est en fait la base de données. Maintenant, ça c'est la base du. Enfin, ça sert à générer du XML dans certains cas. Il n'y a pas. Voilà. C'est plus lisible à la limite, enfin, je ne sais pas, c'est, a priori c'est une ergonomie qui permet à un usager, bah, c'est dans les blogs, etc., les surfaces de publication en ligne, c'est ce principe. Donc je justement que la base de données maintenant est le contenu qui permet de la mise en ligne en XML. Enfin, je ne verrais pas ça de manière si dichotomique. Enfin,
tout dépend de l'application. Ouais, ouais. Quand on a des documents assez longs. Si on n'a pas besoin de faire des traitements unitaires sur beaucoup d'éléments spécifiques, comme on pourrait le faire sur une base de données, où on a besoin de faire des calculs, par exemple, des extractions d'informations un peu complexes, avec des requêtes complexes, là, oui, il vaut mieux utiliser une base de données.
Ce qu'il y a, c'est que les bases de données, c'est des... Enfin, le XML aussi, c'est un vieux truc, ça remonte aux années 70. Et les deux visent à... stocker des données pures, c'est-à-dire ne pas s'encombrer de présentations, structurer l'ensemble de données. Et en fait, dans les deux mondes, du base de données et des XML, on a des outils vraiment différents en sortie, quoi. Donc il y a des passerelles, on peut transformer un contenu qui est une base de données en XML, et on peut transformer du XML dans une base de données. C'est plus ou moins pratique sur la tête du XML ou sur la tête de la base de données, mais ça vous donne accès aux outils qui existent dans l'un ou l'autre monde. Pour un des points, là, c'est... Il y a au moins Oracle, et je crois qu'il y a d'autres éditeurs de bases de données qui se lancent là-dedans. C'est standardisé XQuery, donc c'est un langage de requêtage XML, ouais, mais pour l'attaquer vers des... pour attaquer non plus une base... avant, pour faire une requête sur une base de données, vous la faites en SQL, hein, donc langage dit de base de données, et il y a des gens qui veulent faire un truc de rapport en XML, une techno issue du monde XML et des outils XML, et l'appliquer tel quel aux bases de données parce qu'ils se disent c'est un bel outil, c'est pratique, c'est dans le rapport des clients.
C'est une bonne idée.
Plus d'options.
Mais bon, ça, là, ce dont tu parles là, c'est un côté pratique ensuite d'établissement de prix. Mais sur ce qui différencie fondamentalement ce qu'est une base de données, ce qu'est une XML et ce qui est pertinent pour le choix de l'industrie éditeur versus d'autres industries qui doivent peut-être gérer des données plus quantitatives que textuelles. Par exemple, pour le HM, tu étais prestataire pour le HM, qu'est-ce qui était dans du XML et qu'est-ce qui était dans des bases de données? Je suis sûre qu'il y avait plein de bases de données. Et est-ce que les choix avaient été pertinents?
Je regarde s'il y a d'autres gens d'achètent.
Non, c'est bon, vas-y.
Oh non, en fait, il y a...
c'est la pression.
Moi, j'étais pas là, mais je sais qu'avant, ils avaient beaucoup de bases de données différentes pour stocker beaucoup de contenu. Et donc on a ramené tout ça à une seule base de données. Donc, en effet, certaines données étaient stockées en XML, on servait de la base de données comme d'un file system, comme d'un système de fichiers, quoi, pour rendre le document 1, le document 2, le document 3 et tout, qui était dans un XML qui rappelait le HTML, mais certaines données qui étaient une structuration inouïe, par exemple des fiches climatiques, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vous donnait la pluviométrie et la température pour les 12 mois de l'année. Ben ça, on stockait ça dans la base de données et donc on avait des gros outils d'extraction qui prenaient qui le XML, qui les fiches climatiques et les transformaient en documents, cette fois-ci XML ou images, qu'on bundlait dans le moteur d'encyclopédie Hachette. Mais voilà,
sur les types de données, on mettait l'un ou l'autre. Après, du point de vue des outils, les outils XML et les outils base de données ne permettent pas d'exprimer les mêmes contraintes, hein, qu'on voudrait sur les contraintes de structuration sur les données, ou pas avec la même aisance, hein, ou pas avec le même support des outils. Il faut utiliser les deux. Hein. Si vous me payez assez cher, je vous transforme n'importe quelle base de données en XML et inversement.
Ouais. On a noté.
Voilà, effectivement, il faut analyser le contexte d'utilisation des données.
Et toi, comme ça, pour quel type d'application ou de contenu tu trouves plus pertinent, la solution base de données ou la solution XML?
Si vous avez des données tabulaires, allez dans la base de données. Un annuaire.
Ouais.
Et ouais, c'est un format de données simple. Si vous avez des données un peu arborescentes, carré d'adresse, donc nom, adresse, alors quand il y a plusieurs adresses, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut se poser des questions, est-ce qu'on va rentrer dans une base de données un petit peu plus touffue, ou du XML? XML a une souplesse qu'on ne veut pas forcément.
Et pour toi, la masse des données n'est pas un paramètre. Si tu as vraiment des tonnes de données, si c'est énorme ton truc, que ce soit du XML ou de la base de données,
Les outils XML coûteront plus cher. Pour les gros volumes, voilà. L'opinion qui vaut ce qu'elle vaut. Si quelqu'un a d'autres retours d'expérience.
Je sais pas, vous avez beaucoup de données, tout est en XML au niveau des...
Oui, mais parce que nous, on n'a pas de contraintes de traitement très complexes des informations à la sortie. Mmh. Alors, on fait un peu de filtrage, de la restructuration, mais on ne fait pas de calcul en quelque sorte. Donc on peut gérer de grosses quantités de données, mais il y a les outils et puis la capacité de calcul.
C'est bien ce qui se passe pour le monde du livre, parce qu'on est au bout camp.
Oui.
Et dans le cas d'un contenu textuel ou texte ou image, il n'y a pas d'enjeu de calcul,
oui,
dans la restitution.
Voilà.
Sauf peut-être pour la partie service, si on fait de la publication multi-support qui inclut des... Comme ça va être votre cas,
oui, c'est l'objectif.
Où là, il y aura sans doute des aspects calcul dans les rendus en ligne, peut-être.
Mais on peut très bien imaginer des systèmes mixtes où on a des données numériques ou textuelles, mais tabulaires dans une base de données qu'on va extraire au moment de la publication pour l'intégrer au contenu XML. Ça, y a pas de...
Oui, d'ailleurs, nous, c'est aussi ce qu'on prévoit.
On va d'ailleurs faire ça.
Voilà.
Donc voilà, juste avant que je passe à la démonstration, donc pour vous montrer, si vous arrivez à voir, je prends juste un stylo.
Alors juste,
pour,
je dis, c'est tout ce que vous voyez là, rien ne doit être retenu contre moi. Hein. Parce que c'est vraiment du prototype bricolé dans ma cuisine, au niveau maquette, texte, etc. C'était pour vous montrer ce qu'on peut faire. Hein. Mais je vous promets, ce ne sera pas moche du tout comme ça, Annie.
Donc voilà. Ici, on a la vue arborescente donc, du code XML, d'accord, on a caché le code, mais ici donc on a l'élément racine, c'est le guide, d'accord, qui contient un élément cover avec des méta-informations, d'accord, les métadonnées apparaissent en bleu et les données apparaissent dans les cadres blancs, d'accord, donc le titre de mon guide c'est Aix-en-Provence, d'accord, et j'ai des métadonnées ici, j'ai un identifiant fr-aix-en-Provence. J'ai mon type de guide, c'est le guide parent, il pourrait y avoir des guides enfants ou d'autres choses.
Oui, il va y avoir.
Et j'ai la langue aussi de mon document. Donc tout ça, c'est des métadonnées. Ensuite, on a les données.
Dans le projet, les contenus seront traduits et localisés assez rapidement en anglais. Et avec un outil comme ça, c'est facile de gérer. Enfin, c'est facile. Enfin, on peut le faire.
Voilà, donc en premier 10 mots d'arborescence, j'ai ma couverture, et puis j'ai mes différents chapitres, la ville, etc. Bon, c'est qu'une ébauche, c'est qu'un prototype. Donc,
et l'auteur vend directement son contenu. Il n'envoie plus son fichier improbable dans un format...
Je vous ferai une démonstration de l'interface d'édition tout à l'heure. Au document XML, oui, les métadonnées sont des attributs de chacun des éléments qui contiennent l'information en elle-même.
C'est quoi votre éditeur ?
C'est XXE, c'est XML Mind, c'est une start-up parisienne qui fait ça.
D'accord.
Et c'est un outil libre, bien sûr.
Non, c'est pas
libre. C'est presque libre.
C'est open source, mais c'est pas libre.
D'accord. C'est quoi comme licence ?
C'est une licence propriétaire.
D'accord. Ah mince.
Il existe d'autres éditeurs XML qui ressemblent à ça, mais dans des contextes professionnels qui ne sont pas suffisamment aboutis.
Il y a XML Spy,
non ? Non plus. Il y a Conglomerate, par exemple, et d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit. Mais voilà. Bon, on a déjà vu ça, déjà. Juste un petit mot sur le problème de la saisie de l'information. Souvent, ceux qui rentrent l'information ont l'habitude du traitement de texte ou bien des formulaires déjà tout prêts. Donc ça demande un petit changement d'état d'esprit pour comprendre cette structure XML qui va dépendre du langage XML à l'autre qu'on va utiliser. Mais après, bon, y a toutes sortes de méthodes pour arriver à faciliter le travail du rédacteur. On peut aussi imaginer des formulaires. Voilà. Et puis avec des outils, comme vous l'avez vu, comme ça, où on présente l'information déjà stylée, d'accord, ça facilite beaucoup quand même la prise en main de l'outil. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce XML ? Deux aspects très importants. Ce que j'appelle moi le profilage de l'information, c'est-à-dire la personnalisation du contenu en fonction du contexte d'exploitation de ce contenu. En documentation technique, par exemple, ça peut être dire ben, ce guide d'utilisation, il s'adresse à un expert. Donc, tout ce qui est paragraphe d'explication du contexte, je les supprime. C'est pas la peine, il connaît déjà tout ça. D'accord ? Donc, grâce aux métadonnées qui qualifient mon contenu, je vais pouvoir faire un filtrage en fonction de l'exploitation que je veux faire de ce contenu. Dans le cas des guides, par exemple, vous allez le voir dans la démonstration, il y a des balades qu'on peut faire en été, il y a des balades qu'on peut faire en hiver et pas le contraire. Donc, si c'est quelqu'un qui vient Aix-en-Provence en été, je ne vais pas lui proposer de se balader sur la Seine-Victoire parce qu'elle est fermée en été à cause des incendies. D'accord ? Donc je vais lui fournir vraiment l'information qui est pertinente pour lui dans son contexte d'utilisation de l'information.
Nous, on donnera par exemple des éléments, si l'internaute veut son guide personnalisé, sur son profil, l'âge de ses enfants par exemple, pour lui fournir des activités ou des hôtels, ou des choses qui correspondent à l'âge de ses enfants, à la saison à laquelle il va venir, etc.
Alors tout ça permet aussi une chose, c'est l'unicité de l'information. C'est-à-dire que dans un document final, on peut avoir des informations qu'on va vouloir répéter dans le document, d'accord ? Un avertissement par exemple, ou bien des mots-clés, génération d'un index, etc. Donc on va s'attacher dans le document initial en XML d'avoir les informations à un seul endroit, suffisamment qualifiés pour que l'outil puisse les réutiliser éventuellement à d'autres endroits différents dans le format de publication final. D'accord ? Donc ça permet de générer des résumés, des tables de contenu, des index automatiques. Et en termes de mise à jour du contenu, c'est vachement sympa parce que vous savez que s'il y a une information à mettre à jour, il suffit de la mettre à jour à un endroit pour qu'elle soit mise à jour ensuite à tous les endroits où elle peut réapparaître et sur tous les supports de publication qui vont en découler.
Ça, dans l'info à caractère touristique, c'est hyper important parce que l'info, elle est à durée de vie très limitée.
Voilà, il faut réactualiser très souvent. C'est le problème des guides touristiques papier. On les achète, il y a déjà qui sont périmés.
Je cite quelques-uns des formats de publication de sortie qu'on peut générer de manière standard à partir du XML. Maintenant, a priori, il n'y a pas de limite. À partir du moment où c'est un format ouvert dont on possède les spécifications, ce qui n'est pas toujours le cas, les outils XSL donc de transformation et d'application d'une feuille de style au contenu XML pour en générer un format sorti sont suffisamment souples pour pouvoir faire à peu près n'importe quoi. Voilà. Et en fait, on applique une charte graphique quand même au document final.
Bon, là, il n'y en a pas. Hein. Non. Prototype.
Je trouve une prise de poids, je ne sais pas, parce que j'ai presque pris la prise.
Je ne sais pas, je ne connais pas des bons graphistes, mais bon, au moment où on exactement. Moi, c'est vrai que j'ai une expérience d'auteur en plus de mes activités de journaliste. Et c'est vrai que c'est terrible de voir des contenus qu'on a pu, enfin, qu'on ne peut pas réactualiser ces livres comme on voudrait. Il faut attendre une nouvelle édition. C'est très frustrant aussi pour les auteurs.
Voilà, donc très, très schématisé, comment ça se passe, une chaîne de transformation, une chaîne de publication XML. D'abord, on essaye d'imaginer tous les besoins sémantiques qu'on va pouvoir avoir sur l'information qu'on va vouloir stocker et exploiter. D'accord ? Pour qu'on puisse imaginer comment on va vouloir exploiter cette information, comment on va vouloir la restructurer, la qualifier, pour que lorsque le rédacteur rentre son information, déjà, il ait tous les outils à sa disposition pour bien qualifier cette information. Et au plus on a de méta-information, il qualifie l'information, au mieux on pourra l'exploiter ensuite par la suite.
Donc c'est vrai que ça oblige en amont un méga travail de structuration sur son contenu. Puisque il faut réfléchir, mais non plus en termes de chapitres seulement, enfin, d'abord plus en termes de commandes sur tiens, je te commande un bouquin sur voilà, l'architecture la Gaule romaine, mais les différents chapitres et au-delà même du chapitre ou du paragraphe, de l'élément de texte. Quels seront les éléments qui vont être pertinents de éventuellement de baliser et à quoi on va les rendre. Voilà. En fait, il faut se mettre un peu dans la peau de son futur lecteur, finalement. Quel usage il va faire de l'information qu'on lui propose.
Ouais. Très important au début de réfléchir à quel va être le public et comment on va pouvoir au mieux lui servir l'information.
Comment il va pouvoir l'utiliser, qu'est-ce qu'il va chercher dans l'information qu'on va lui proposer.
Tout ça permet de définir le schéma de stockage de l'information, d'accord ? Puisque XML, c'est un métalangage, d'accord ? Qui permet de définir les balises qui vont nous permettre de structurer l'information. Ensuite, on a besoin d'une interface de saisie de cette information, pour ceux qui rentrent l'information. On a besoin d'un espace de stockage. Pour des projets très simples, ça peut être en monoposte. Pour des projets plus complexes, en mode collaboratif, il va falloir un espace de stockage centralisé qui gère un peu les versions, etc. Ensuite, il y a la phase de transformation et de mise en page. Donc, c'est ce que j'appelle la transformation XSL.
C'est presque le plus spectaculaire quand voilà, c'est on appuie sur un petit bouton et hop, on a le texte mis en page en PDF pour le web. Bon, il faut avoir fait avant la mise en page et avoir fait les feuilles de style.
Mais voilà, mais c'est un travail de mise en page qu'on fait une seule fois, c'est-à-dire qu'on définit les règles de mise en page automatique, de pagination automatique, toutes les règles de présentation, et ensuite c'est quelque chose qui va se faire de manière automatique sur tous les documents. Ça amène une homogénéité vraiment très forte sur tous les documents qui sont générés à partir de la même chaîne de publication.
Donc c'est vrai que c'est très contraignant. Enfin, c'est très contraignant. Peut-être que...
Au départ, mais après...
Voilà. Voilà. Après, ça dépend quel type d'ouvrage on veut produire aussi.
Si on c'est en amont qu'on structure tout, voilà. Pour générer d'un côté le PDF, d'un côté, voilà, quels voilà. que soient les formats, c'est en amont que c'est prévu. Et
voilà. Bon, après, c'est souple, c'est très modifiable, bien entendu. On peut, en cours de vie du projet, tout modifier. Mais a priori, au début, tout est prêt pour que... Une fois que le rédacteur a rentré ses informations, il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir tous les formats de publication pour tous les publics désirés.
Ça a du sens pour un guide touristique. Si on veut faire une maison d'édition spécialisée dans le livre d'art, là, c'est idiot, puisque chaque livre est unique. Et c'est un, enfin bon. Non, vous le verriez dans... Parce que c'est quand même très... Non, aussi pour...
C'est pas le plus simple, mais oui, à partir du moment où il y aurait des collections...
Voilà, quand même, oui.
Éventuellement. Donc là, je présente schématiquement un peu, à peu près l'architecture qu'on compte mettre en place pour le projet de Nathalie. Donc au début de la chaîne, on a un rédacteur. À la fin, ici, on a l'internaute ou bien la personne qui va lire le guide. Rédacteur qui rédige ses contenus, qui les stocke sur une base de données. Ici, donc, on a le serveur de transformation qui va extraire les données de la base, qui va les faire sa petite moulinette avec les feuilles de style, donc pour la mise en page, pour la pagination, et générer. Bon, pour l'instant, je fais le chemin le plus standard. Générer ici des guides standards, d'accord, qui ne vont pas être personnalisés. On va définir un contenu de base, d'accord, le plus standard pour toutes les saisons possibles, pour tous les types de familles possibles, par exemple.
Oui, parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont moyennement, parce que sur le portail, on offrira aussi la possibilité de sélectionner les contenus, donc un peu manuellement, mais on pourra aussi, en faisant son profil, avoir une personnalisation plus automatique. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas envie de s'embêter, à perdre du temps, etc., et qui vont simplement télécharger ou vouloir accéder à un contenu standard, parce qu'ils préfèrent avoir le meilleur de ce qu'on peut proposer, et puis après, peut-être aller vers quelque chose de personnalisé, mais au démarrage, parce qu'on leur demande quand même un effort, quoi. Et tout le monde n'est pas dans un mode... voilà, très actif par rapport au choix des contenus.
Et donc ces guides pourront être proposés directement par le portail standard à l'utilisateur, ou bien être générés avec une charte graphique spécifique, par exemple à un office de tourisme d'une ville, d'accord, pour être présenté aussi.
Ça aussi, ça fait partie de notre modèle économique. C'est un peu le problème quand on crée une entreprise. Il faut arriver à gagner sa vie avec ce qu'on... Et donc, on a imaginé, c'est très facile quand on produit du XML comme ça, de proposer certains contenus en marque blanche qui pourront être très facilement intégrés sur les portails web d'office du tourisme, etc., qui sera aussi un de nos modèles de financement, sachant qu'on va proposer, l'idée, c'est de proposer... donc, ce qui est accessible directement sur le web, ben c'est gratuit, hein, parce que sur le web c'est gratuit, c'est comme ça. Mais les options personnalisées, c'est payant. Mais c'est pas cher du tout. C'est pas cher du tout. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui le livre électronique ne démarre pas le livre numérique parce qu'il est beaucoup trop cher. Moi j'ai pas envie de télécharger un livre sur Numilog à 19 euros alors que ça me coûte. Enfin, c'est 19 euros le prix papier et j'ai rien en plus dans mon fichier. Il n'y a pas de valeur ajoutée, les liens ne sont pas cliquables, je peux rien faire avec. Moi sur mon iPhone, je télécharge des bouquins, mais gratuits. Mais si on propose des choses un peu personnalisées ou à valeur ajoutée et moins chères que le papier, parce que je sais que ça coûte d'imprimer, surtout diffuser, distribuer, je pense que on est tous prêts à payer un peu, enfin j'espère. Mais non, plus personne n'est prêt à rien payer du tout. Voilà, l'idée c'est un petit peu ça, et voilà, les offices du tourisme et tout, c'est aussi un moyen de peut-être de gagner un peu d'argent. Surtout qu'il y a peu de contenu, moi c'est quelque chose qui me frappe depuis très nombreuses années, il y a peu de contenu très spécialisé sur la famille et les enfants. Il y a beaucoup de choses très générales. Voilà, des guides de voyage pour les enfants. Il y a Graines de voyageurs qui vient de se lancer, là, mais il y a Gallimard qui avait lancé des jolies choses. Mais il n'y a plus vraiment de collection. Non ? Vous en connaissez ?
Non.
Non. Voilà.
Donc voilà, donc ça c'était le chemin standard où en gros on a du contenu assez statique qui est présenté aux utilisateurs. Mais par ailleurs, sur le portail, donc, une fois enregistré, il pourra définir son profil. Moi j'aime plutôt les hôtels 5 étoiles, j'aime pas la campagne, ne me parlez pas d'arbres et de verdure.
Voilà, on a défini des petits sociaux styles de famille, quoi, et par lequel on ne sera pas obligé de passer d'ailleurs, hein, si on n'a pas envie. Voilà.
Et donc à partir de là, on pourra proposer ce que les internautes auront plébiscité comme le plus pertinent par rapport à leur profil. D'accord ? Et donc à partir de ce moment-là, ça va être du contenu à la demande, vraiment, où le portail va envoyer un bon de commande au serveur de transformation en lui disant bah, « Tiens, j'ai un internaute qui veut se déplacer à Rio de Janeiro l'été prochain, d'accord ? Ils sont trois, il y a deux adultes et un enfant, avec tel profil, etc. Et je veux tels et tels éléments de contenu. » Parce qu'on aura prévu dans notre schéma XML que chaque élément de contenu soit qualifié par des métadonnées de façon à permettre un filtrage dynamique en fonction du profil de la famille. D'accord ? Et donc là, le serveur de transformation va renvoyer un guide personnalisé dans le format demandé par l'utilisateur, qui va contenir uniquement les informations que lui aura jugées pertinentes pour lui. Voilà, donc là, ce sera vraiment du contenu dynamique à la demande.
Là, on choisit plus seulement son chapitre. Il y a, par exemple, Ni Planète, le site américain propose donc du PDF où on choisit son chapitre. Là, leur offre Pix and Mix. Mais bon, c'est déjà bien de pouvoir choisir son chapitre. Nous, on va aussi le proposer pour les gens qui voudront un PDF standard. Ils pourront juste choisir les chapitres qui les intéressent. Et eux, ils vendent ça, ils ne s'embêtent pas quand même. Hein. Ils vendent le chapitre à 1 dollar. $1 le chapitre. Mais c'est du PDF qu'il faut s'imprimer, quoi. Forcément, oui. Et puis il y a d'autres projets un peu off-beat guide. Enfin, aux États-Unis, il y a pas mal de choses autour du téléchargement, du livre numérique, un téléchargement plus ou moins personnalisé. Enfin, pour le moment, ça s'arrête au choix du chapitre.
Ça vous évoque des choses Non ? Des questions ? C'est clair là, la chaîne
Tout le contenu pour un guide donné est dans un unique fichier XML.
Oui.
Donc il y aurait ici par exemple la version parent et la version enfant, et en fonction du profilage, on pousserait tel ou tel contenu vers le public.
Alors,
En fait, au niveau des. Pour les enfants, c'est des carnets d'activité. Et là, on a juste un profilage par âge. En fait, l'enfant pourra. Il n'y a pas vraiment de profilage par rapport aux activités enfants. Parce que. Voilà, pour le moment, on a laissé ça plus tard. En plus, c'est un peu gênant le profilage enfant, tout ça. Donc, en fonction de son âge et ce qu'il aime, voilà, on va dire que c'est ça. J'aime les animaux, j'aime pas les personnages célèbres, pas d'histoire géante pour moi.
Voilà. Pas de musée.
Pas de musée, ah, musée obligatoire. Désolée.
Vous venez de perdre une cliente là, pas moi.
Hein. Ah non, mais justement, dans nos carnets d'activité, les enfants ont profité de musée parce que c'est marrant.
C'est très bien. Merci.
Mais c'est vrai, c'est un enjeu. C'est vrai.
Si vous voulez, maintenant je vais vous faire un petit peu très rapidement une démonstration de ce que
vous avez. Vous regardez après, vous fermez les yeux, et puis comme dans les films américains, crac, boum, vous oubliez tout. Parce que vraiment, c'est très moche.
moche à voir, mais... Enfin, ce qui est moche, c'est mon absence de maquette, je veux dire.
Donc, ici, on se trouve dans l'interface d'édition. Je vous ai mis donc l'arborescence qu'on a vue tout à l'heure, XML. Et ici, on a une vue un peu stylée, d'accord. Il y a une simple feuille de style CSS, pour ceux qui connaissent, qui permet de mettre une petite mise en page pour que ce soit un peu plus agréable à l'édition. Et donc, on présente des informations brutes, les unes après les autres. Et ça va être à la charge du rédacteur de rentrer ces informations. On va lui fournir un squelette déjà complet de toute la structure qu'on a imaginée du guide. Et lui, il n'aura plus qu'en quelque sorte à remplir les cases, à rajouter des liens vers les images qu'il voudra mettre à l'intérieur, remplir les textes, et éventuellement rajouter des éléments supplémentaires aussi, puisqu'il y aura un guide, donc il y aura le guide standard, et dans le guide personnalisé, on pourra rajouter plus d'informations aussi, faire des guides plus étoffés.
Et oui, parce qu'on ne peut pas se limiter, évidemment, à quelques infos. C'est là où on rejoint un petit peu la base de données, c'est-à-dire qu'on peut mettre plein d'éléments, autant d'éléments qu'on veut, et quand on fabrique le guide PDF, il y a des contraintes de nombre d'éléments. Voilà.
Alors, un premier aspect ici, qui ne va pas être utilisé pour ce projet-là, mais qu'on utilise par ailleurs beaucoup, c'est la modularité du contenu. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ici, tous les guides vont être monoblocs, puisque, a priori, le chapitre sur la campagne autour d'Aix-en-Provence, on ne va pas l'utiliser dans le guide pour Rio de Janeiro. D'accord ? Voilà, donc en fait, on aura des guides assez monoblocs. Éventuellement. Mais là, en l'occurrence, on a une partie qui est éditable. Donc ici, c'est le titre d'Aix-en-Provence. Donc ici, par exemple, j'ai rajouté mon pays entre parenthèses. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'Aix-en-Provence dans le monde, mais on ne sait jamais, on peut toujours le spécifier. Mais cette partie-là qui apparaît en grisé, en fait, c'est qu'une référence vers un autre fichier externe, d'accord ? Donc je peux y avoir accès ici, je vais ouvrir mon fichier, voilà. Ici, j'ai que mon chapitre correspondant à Aix-en-Provence en famille, pourquoi comment, qu'ici, je vais pouvoir modifier. Et donc, je peux imaginer que ce chapitre, il est réutilisé dans d'autres publications, par exemple. C'est toujours que des références. Donc, si je modifie ce chapitre-là, toutes les publications qui exploitent ce chapitre-là exploitent mes modifications. Bien. J'enregistre tout ça. Et là, on a prévu, donc, en exploitation monoposte, on n'a pas de serveur de stockage pour l'instant, ni de serveur de transformation, c'est tout intégré ici. On a prévu deux chaînes de publication, l'une en PDF et l'autre en HTML. D'accord ? Donc.
On a aussi du PRC,
qu'est-ce que ça veut dire PRC ?
PRC, c'est pour tout ce qui est mobile. Tu sais, téléphone mobile, machin, c'est du PRC. Et en fait, c'est très sympa parce que tu peux changer la taille des caractères.
Et ePub, c'est un format pour les e-books ?
Voilà, en résumé, c'est ça.
Donc, bon, ici, il me demande où est-ce que je veux enregistrer mon guide en format PDF. Très rapidement, il agrège tous les contenus, d'accord ? Il applique la feuille de style, il fait la mise en page automatique.
Il n'y a pas de mise en page, ça ressemble à une mise en page.
Et donc, ça va nous donner au final.
Pour tout vous avouer, j'ai bricolé mes mises en page sur Scribus. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel libre de maquette. Et je n'ai aucune.
Voilà, donc on a ici notre guide PDF qui vient d'être généré. Voilà, donc on retrouve notre contenu, ici ma modification que j'ai faite, avec notre mise en page, d'accord. Donc on retrouve notre illustration avec la légende, les crédits ici,
donc
notre
on peut
premier
faire
paragraphe.
Des maquettes complexes, c'est d'accord. Pas du texte à la...
Avec notre pagination normale. Hein. PDF, ok, donc avec un format physique bien délimité et des pages.
J'avais mis le plus de contraintes possible.
et ensuite on va voir ce que ça donne en HTML. Même processus. Guide.html. Voilà, donc dans un navigateur, on retrouve exactement le même contenu. Donc avec, cette fois avec plus de pagination et une mise en page graphique complètement différente, d'accord. C'était pour le besoin de la démonstration. On retrouve voilà notre illustration avec sa légende et les contenus ici qui se suivent.
Pour l'aspect gestion des images et oui. La qualité des images qui n'est pas la même quand on a rendu ouais, HTML sur le web, sur le mobile on veut peut-être encore plus bas que ce qu'on a sur le web et puis on veut au contraire de la haute définition pour l'impression. Il faut y avoir pensé avant, c'est-à-dire oui. Avoir stocké tous les formats d'images.
Alors ça dépend. On s'est rendu compte que si on pouvait avoir pour les illustrations uniquement images photo en fait, de la haute définition, et pour ce qui est illustration graphique, les diagrammes, les schémas, du vectoriel, en fait à partir de là on pouvait générer automatiquement, lors de la transformation, définir déjà la qualité d'image qu'on voulait. Soit le laisser en vectoriel si c'est un format de publication qui permet de l'exploiter directement, soit le transformer en bitmap avec la résolution voulue suivant la chaîne de transformation. Voilà, on a des chaînes de transformation spécifiques par format de publication et on peut avoir n'importe quel traitement en fait dans cette chaîne de publication, dont la diminution de la résolution des images par exemple.
Pour vous c'est important aussi, je ne vous ai pas dit qu'en plus de tout le reste, on va proposer, si l'internaute veut télécharger pour impression personnelle, ou en POD, s'il veut recevoir, on va aussi proposer des albums, les gens, c'est une autre dimension du projet qui est importante, que les familles, les enfants puissent mettre en ligne leur propre contenu, produire leur propre album, leur propre... Donc là, c'est, on a envie d'avoir son bouquin, donc c'est quelque chose qu'on a intégré dans la chaîne, le fait que les images pour le but des parents aussi vont être... Enfin, je ne pense pas que dans ce cas-là, beaucoup de gens vont commander en POD, mais...
Considérer que le texte, c'est une longue chaîne de caractères.